Chapitre 5. La chambre était empourprée par les rayons du soleil couchant, qui jetait des reflets criards, rouges, fantastiques sur les murs, sur les meubles brunis et sur le portrait. J'étais assis devant la table de travail que j'avais fait porter dans le cabinet de mon oncle. Devant moi, sur cette table, des livres, le poté, la contrainte infernale et un cahier de papier blanc. La belle et juvénile tête de femme que le soleil inondait de lueurs rouges sang. Elle semblait vivre. Et combien était regrettable l'absence du cou et du buste. Quel secret dormait derrière ce portrait? Qui était cette femme depuis si longtemps enterrée? On aurait pu la croire morte depuis plus d'un siècle, car sa coiffure paraissait appartenir à une mode bien ancienne. D'où venait sa relation avec ma vie actuelle? Quand ce visage s'animerait et prononcerait le nom du vieillard, je devais rompre les cachets du testament. C'était une folie, mais une folie qui me liait les mains avec les liens sacrés d'un serment. Et c'était une folie à moi de permettre à une autre folie de s'emparer si entièrement de mon âme, de mes sentiments. Voilà le proté et le procès de Marguerite Hemmerling, accusée en 1612 d'avoir graissé ses souliers avec de l'huile sacrée. Mais pourquoi le portrait n'avait-il pas été achevé? Peut-être cette dame vivait-elle dans cette vieille maison, il y a un siècle. C'était peut-être une patricienne, riche, belle et fière. Elle avait engagé un pauvre diable de peintre à faire son portrait. Et celui-ci s'était éprié passionnément de la belle dame. Il avait peint sa tête avec les couleurs de l'amour. En peignant, il s'était dévoré en un désir de languissant et muet, et il était mort sans avoir achevé le portrait. Les rayons du soleil s'étaient retirés presque tout d'un coup. Il faisait maintenant sombre dans la chambre. Le cahier de papier blanc attendait. Marguerite Hemmerling attendait. Les feuilles du broté infernal bruissaient d'impatience. J'étendis la main vers la sonnette pour que la vieille Lise apportât de la lumière. Ou bien la dame n'avait que la figure de très belle. Elle avait quelque difformité, peut-être était-elle bossue. Elle n'avait pas voulu être flattée, et encore moins se souvenir, survivre, sous une forme disgracieuse. La nuit s'était faite autour de moi et le silence m'enveloppait. Non, je n'étais pas tranquille. Oh, ce ton plaintif, gémissant, mais qu'est-ce que c'était? Mes cheveux se dressaient. En proie à toutes les épouvantes qui assaillent l'homme dans ces vieilles demeures pleines de légendes et d'histoires, de crimes mystérieux, l'obscurité augmentait la sourde terreur dont j'étais envahi. Et toujours cette note lugubre, là, près de moi, au-dessous de moi. Enfin, j'avais réussi à faire de la lumière. C'était le pauvre vieux Médor, là, debout, tremblant de tout son corps brisé, voûté par l'âge, les yeux vitrés, la langue pendante, râlant. Encore un aboiement rauque, puis une dernière convulsion, et il était mort. Tout frissonnant, je posai mon chandelier sur la table, en lui donnant une telle secousse que j'entendis Remuelant crier. Puis je m'affaissai dans le fauteuil. Je me dis qu'en ce moment, mon pauvre oncle Imnerius venait de mourir lui aussi. Mais d'où me venait cet avertissement? Et le portrait me regardait toujours, immobile, avec ses yeux légèrement rougis, comme s'il eût pleuré. La flamme de la bougie brûlait tranquillement, et le portrait n'avait pas changé d'expression. Le cadavre du chien gisait à mes pieds. Tout était silencieux et calme. Je n'entendais que le bruit que faisaient les vers du bois en rongeant la charpente, et de temps à autre le vent qui frappait doucement aux vitres. Chapitre 6. Je continuais de vivre jusqu'à l'automne dans cette maison solitaire, noircie par le temps. Mais il me fut impossible de travailler. Le proté, la contrainte infernale, et le dossier de la Hummerling dormait à mes côtés du cahier de papier à moitié griffonné. Je passais des nuits blanches à méditer et à rêver. J'errais dans ces chambres sonores parmi les vieux meubles, et nulle part je ne trouvais ni repos ni paix. Les orages de l'automne balayaient le pays, s'égaraient jusque dans cette ruelle étroite et éloignée, faisant tourbillonner la poussière et secouant violemment les croisées dans la nuit. Au milieu de ce vacarme, il me semblait entendre des mélodies et des harmonies qui me remplissaient de terreur. Le violon de feu à Hummerus lamentait sans repos au souvenir de son foyer perdu, de ce foyer où mon oncle avait vécu durant de longues années, seul avec son secret troublant, loin des hommes. Réfléchissant sans cesse à ce secret, pendant la nuit, dans un demi-rêve ou pendant une veille pleine d'inquiétude, dans des chambres où l'on s'effraie du bruit de ses propres pas, j'arrivais à faire mien ce secret. Mais où en était la solution? Dans le testament de mon oncle, muet, fermé, inaccessible, protégé par mon serment. J'étais seul sur la terre. Aucun bras n'avait enlacé mon cou de son étreinte. Aucun amour pour quelque créature de ce monde n'échauffait mon cœur de vieil étudiant. Même l'attrait passionné des bûchers flamboyants de la superstition s'était éteint dans ces chambres solitaires, avec leurs secrets planant dans l'air lourd, dans les meubles silencieux, dans les grandes ombres noires, dans l'écho retentissant, dans ces rêves désenchantants de l'âme qui, sans amour et sans but, s'était abandonnée aux études mortes et qui, dans de telles nuits de tempête, s'éveilla et se trouva frissonnante, seule dans le monde, comme dans une vaste bruyère enveloppée par la nuit et fouettée par le vent. Dans les longues soirées d'automne, j'allais partout à la taverne au coin de la rue. Je fis quelques connaissances, entre autres celles d'un médecin taciturne et d'un employé des douanes très bavard. C'était avec eux que je causais jusqu'à 10 heures. Puis je rentrais paisiblement. Et dans mon sommeil, j'entendais les douces notes plaintives de Palestrina jouées par les mains tremblantes du docteur Hummerus. Les notes se renforçaient, devenaient de plus en plus puissantes. Je me dressais en sursaut sur mon lit, éveillé de ce sommeil fiévreux. J'allumais la bougie et les yeux du portrait se mettaient à me regarder avec fixité et d'un air grave. Ô yeux merveilleux, mais où étiez-vous? Un regard vivant devait-il jamais vous animer? Une âme vivante devait-elle jamais vous prêter son doux éclat? Deviez-vous jamais vous attacher sur moi, plein de promesses de bonheur? Mais quelles idées avais-je? Pouvais-je souhaiter un événement qui m'eût rempli de terreur, qui m'eût certainement rendu fou? J'étais nerveux, excessivement nerveux. J'étais malade. Si seulement je n'eusse pas été aussi solitaire. La solitude, c'était la cause de la maladie qui m'envahissait. Je n'avais pas d'amis, je n'en voulais pas. Je ne cherchais pas les occasions de me lier. D'autres jeunes gens ont des passions, des déceptions, quelquefois des chagrins. Avoir des chagrins. Pour cela, il faut aimer. Et qui devais-je aimer? Il y avait assez de jeunes filles, mais quand on aime, il faut que le cœur parle, et non, mon cœur n'avait jamais parlé. Et si j'avais aimé, je n'aurais jamais osé le dire. Je m'enfonçais dans mes oreillers. J'aurais voulu pleurer. Dehors, le vent d'automne ululait. Il était pris dans la ruelle étroite et ne pouvait plus en sortir. Et il beuglait, faisait rage, et secouait tout avec fureur. La tempête du dehors était-elle plus forte que celle qui agitait mon âme? Est-ce que la folie du vieillard m'avait saisi? Ou la folie d'un mourant peut-elle rendre possible impossible? Le portrait en face de moi allait-il donc s'animer? L'accomplissement de la prophétie du vieillard et la révélation du secret de cette raison mystérieuse s'approchaient peut-être sur les ailes de l'ouragan. Là, un cliquetis des vitres, un frôlement dans le couloir, le bruit des verres qui rongeaient les lambris, et la bougie s'éteignait dans un courant d'air. Puis des ténèbres, un calme plat. Ô yeux célestes, vous aussi étiez éteints. Aux tempêtes de l'automne succédèrent les tempêtes et les neiges de l'hiver. Et toujours j'errais à travers ces chambres solitaires et sonores, pâle, hagard, sans repos et sans paix, un cahier de papier à moitié noirci, toujours à côté du protée infernal. Chapitre 7. Enfin, les flocons tourbillonnaires avaient été engloutis dans la tourmente d'une nuit d'hiver. Des nuages blancs et cotonneux avaient disparu dans l'obscurité. Le vent geignait dans le gros poêle, et malgré son verre protecteur, la flamme de la lampe jetait des lueurs vacillantes sur les grandes lettres noires et sèches d'un vieux bouquin teigneux. La vieille Lise dormait depuis longtemps dans sa chambre, et j'étais seul avec mes pensées. Alors je crus entendre en bas le tintement de la sonnette de la maison. Je m'étais peut-être trompé, mais non, encore le même bruit de sonnette. Le vent avait probablement agité le fil de fer. Qui pouvait venir à cette heure chez moi? Et toujours cette sonnerie. Inquiet et nerveux, le moindre bruit prenait pour moi des proportions exagérées. Je me levai. J'étais convaincu que cette sonnerie n'était que l'effet du hasard ou d'une hallucination. Mais si je n'étais pas descendu, je n'aurais pas fermé l'œil de toute la nuit. J'allumai donc une petite bougie. Je pris la clef suspendue à son clou dans le couloir et j'avançai jusqu'à l'escalier. Je m'arrêtai pour prêter l'oreille. Rien. J'allais rentrer. Drelin, drelin, drelin. Oh, cette fois, ce n'était plus une illusion. D'en bas, le bruit de la sonnette montait aigu, violent. Sans doute, c'était quelqu'un qui venait me demander un refuge pour cette affreuse nuit d'hiver, pleine de tourbillons de neige. Mais pour l'amour de Dieu, qui était-ce? Maintenant, l'irritation des nerfs s'était dissipée. Le son très distinct de la cloche m'avait ramené dans le monde de la réalité, de la possibilité. Je descendis vite l'escalier, et au moment où je tournais la clé dans la serrure, qui produisit un grincement désagréable, 1 heure sonna à l'horloge de l'église voisine. La porte était ouverte à moitié, j'avais déposé ma bougie derrière l'autre battant, resté fermé, de crainte que les rafales de vent qui poussaient la neige jusque dans le vestibule ne vinssent l'éteindre. Quelques secondes s'écoulèrent avant que la flamme brûlât tranquillement, sans trop vaciller derrière sa paroi protectrice, et qu'il se vit une clarté suffisante dans un espace de 3 pas. Dans le cadre noir de la nuit, je vis alors se dessiner un seul point pâle, rien qu'une figure sans corps, celle du portrait avec ses sombres yeux légèrement rougis, avec sa belle bouche aux traits fatigués, avec sa chevelure nuageuse. Et la tête vivait, des yeux, une âme me parlait, et j'entendis distinctement les paroles suivantes sortir de ses lèvres. Je voudrais voir le docteur Irbeius. Chapitre 8. Je voudrais voir monsieur le docteur Irbeius. S'il dort, réveillez-le, répétèrent les lèvres. La figure se détacha du fond noir. Un corps enveloppé d'une grosse pelisse suivit, et une belle fille, grelottante, échevelée, se dressa dans le cercle vaporeux de ma bougie. Je m'éveillai. Ce n'était pourtant plus un rêve. Ce n'était pas non plus de la folie. Ce n'était pas un conte de revenants. Ce n'était pas une tête parlante, sans torse. Voici bien ma bougie, voilà bien l'escalier, et devant moi une jeune fille, l'original vivant du portrait de là-haut. Belle, frissonnante, une capote noire passée sur sa chevelure dorée, enveloppé d'une vieille pelisse noire, garnie et fourrée de zibeline, ses yeux attachés sur moi, grands et interrogatifs, ses sourcils sombres, froncés avec une expression d'impatience, elle avait fermé la porte pour se garer du courant d'air. Est-ce que vous m'avez compris? Dit-elle d'un ton plus élevé, en fronçant encore plus ses sourcils, pendant qu'une petite main blanche, sortie de vêtements de fourrure noire, secouait mon bras immobile. Mais monsieur le docteur n'est plus ici, lui répondis-je enfin. Je savais que je le disais, mais je ne m'entendais pas moi-même. Je n'entendais que mes pensées s'agitant en désordre. Je vis aussi que la figure se transformait douloureusement et qu'elle parlait. Je compris qu'elle demandait quelque chose, mais je n'entendis pas ce que c'était. Dans mon cerveau troublé résonnaient ces paroles. Quand la figure de ce portrait se présentera à toi, vivante, en prononçant mon nom, l'heure sera venue d'ouvrir mon testament et d'exécuter ce qu'il t'ordonne. Enfin, le calme rentra dans mon esprit, et je n'eus plus qu'une pensée, c'était que l'heure était venue, celle de la révélation du secret tourmentant de cette vieille maison. L'heure de l'accomplissement de mon serment qui allait cesser de m'entraver, l'heure de la délivrance du spectre plaintif de mon pauvre oncle Incrédulus, et enfin celle de la guérison de tous les germes de folie de ma solitude. Et aussitôt que ces idées se furent précisées dans ma tête, j'entendis clairement, comme si un écho l'eût répété, ce que la jeune fille venait de dire. Mais s'il est parti, où est-il allé? Maintenant, j'étais tout à fait éveillé. Oui, mademoiselle, il est parti, mais il m'a chargé d'une commission pour vous. Elle se tenait devant moi, tout ahurie. Pour moi? Est-ce que vous me connaissez? Demanda-t-elle en me regardant fixement. La réalité me rendait confus. Non, mademoiselle, mais veuillez monter, je vous donnerai des explications dont monsieur le docteur Irmerius m'a chargé pour vous. Elle me regarda de nouveau. Mais qui êtes-vous? Demanda-t-elle. Mais déjà toute rassurée et paraissant résolue, elle s'avança vers moi, se disposant à monter. Il y avait beaucoup de décision, de hardiesse et de fermeté méridionale chez cette délicate et charmante jeune fille. Fiez-vous à moi, lui dis-je en plongeant mes regards fascinés dans ses yeux divins. Je m'appelle Erwin Imhoff et suis le neveu du docteur qui m'a confié cette maison. Moi, je m'appelle Angelina Irmerius, dit-elle d'une voix plus douce. Et tout en grelottant, elle prit mon bras que je lui venais d'offrir. J'avais attisé le feu de ma chambre. Il y faisait chaud et le vent qui ronflait dans le haut de la cheminée rendait la chaleur encore plus sensible et plus agréable. J'avais allumé une seconde bougie. Et les murs sombres prenaient maintenant un air gai et confortable, comme jamais auparavant. Je n'aurais jamais cru que cette vieille maison pût offrir un intérieur aussi charmant. Pour la première fois, je me sentais tout à fait chez moi, et mon cœur, malgré le trouble, l'incertitude et la surprise que j'éprouvais, était infiniment plus tranquille qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il était maintenant lui-même, avait un devoir, un but, enfin une compagne. Elle s'était arrêtée près de la porte, m'avait regardé d'un air ferme et interrogateur, comme elle l'avait fait déjà au moment de monter l'escalier, puis elle m'avait dit: Apprenez-moi maintenant ce dont vous a chargé le docteur Irmerius. Oh, pour le moment, lui répondis-je en quittant son bras, je ne saurais rien encore vous apprendre. Il faut d'abord lire une lettre que M. Irmerius m'a remise en partant et qui seule doit me faire connaître la mission que je vais avoir à remplir. Ne vous étonnez de rien et fiez-vous à moi. Ses traits s'étaient détendus, sa figure avait pris une expression alanguie, elle avait maintenant l'air très doux. Oh, c'était vraiment la ressemblance vivante du portrait. Rien ne peut m'étonner de ce qui vient de la part du docteur Irmerius, dit-elle avec un soupir. Je suis sa fille et j'ai confiance en vous. En même temps, elle me regardait d'un air candide et plein de loyauté. Vous avez froid et vous êtes fatigué, lui dis-je. Veuillez vous asseoir près du feu et permettez-moi de m'acquitter de ma mission pendant que vous allez vous réchauffer et vous reposer. » Elle dégrafa sa pelisse et la laissa glisser sur une chaise. Une taille svelte de fée, dans une simple rose grise de voyage, se dessina devant moi. Sa chevelure dorée se déroula sur ses épaules en couches claires, soyeuses et légères comme un duvet. J'ouvris la petite porte du poêle afin que la lueur et le pétillement du feu l'égayassent davantage. J'approchai le grand fauteuil et plaçai une bougie sur une petite table près du poêle. Puis j'allai prendre dans un placard une bouteille de vieux vin et un verre que je remplis. Ensuite, je lui tendis la main, qu'elle accepta, mais elle restait debout. « Encore un mot, monsieur Erwin, » dit-elle. « Mon père n'est plus ici. La maison m'est devenue étrangère. Est-ce que vous avez une domestique ? Cela me permettrait de passer la nuit ici. Je suis seule et comme une étrangère dans cette ville, sans amis et sans connaissances. Ce soir, je suis arrivée par la diligence et mes bagages sont restés au bureau. Je comptais séjourner ici. Est-ce que ce sera possible, au moins, jusqu'à demain matin ? Mais cette pièce est bien chauffée, de même que la chambre à coucher. Elles sont à vous. J'éveillerai la vieille Lise. Je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Mais je suis d'avis de lire avant tout la lettre. Asseyez-vous sur ce fauteuil. Chauffez-vous, mademoiselle Angelina. Prenez une goutte de vin, voulez-vous ? Oui, dit-elle. Elle paraissait très fatiguée et découragée. Elle devait être très énergique, car je ne m'aperçus qu'alors de son abattement. Maintenant qu'elle était affaissée dans le fauteuil, ses mains tremblaient, sa tête se penchait, malgré elle, de côté. Elle regardait la flamme, profondément troublée et pleine d'angoisse. Elle avait l'air tout à fait déconcertée. Elle me fit signe de m'éloigner et me dit en même temps d'une voix rauque « Lisez !» Je me dirigeai vers ma table de travail. J'en tirai le testament et le plaça devant moi. Cette feuille, muette jusqu'alors, allait donc parler. Le moment était solennel. Dehors, la tempête du vent et de neige continuait. Cependant, je n'étais pas trop inquiet. Je n'aurais jamais cru qu'une habitation aussi ancienne pût être aussi confortable et qu'une nuit d'hiver y pût offrir autant de charme. Une fois encore, je regardais la pauvre jeune fille étendue dans le fauteuil pour m'assurer que rien ne lui manquait. Le feu pétillant du grand poêle commençait à la réchauffer, car ses joues, doucement éclairées par la pâle clarté de la bougie, reprenaient la teinte rosée qu'elle devait avoir ordinairement. Par moments, elle se cachait la figure dans ses mains. Il me semblait que je l'entendais pleurer. Je me levai à moitié. Mais non, ce ne pouvait être des sanglots de jeune fille que j'avais entendus. Peut-être s'endormait-elle. Elle me faisait l'effet d'être si seule, si abandonnée, si désespérée. Cette jeune fille, pourtant si courageuse, si résolue, si décidée, que je me sentais plein de force et d'ardeur pour la protéger. Depuis de longues années, mon cœur n'avait été aussi calme et n'avait envisagé l'avenir avec autant de sérénité. Plein d'espoir, je rompis le cachet d'une main ferme et je lus ce qui suit. « Mon cher neveu, je sens que ma vie décline. Elle a été trop longue de 15 années. Il est temps que la mort vienne. Cependant, la vie la plus longue devient trop courte dans les derniers jours. Il me reste encore tant de choses à faire. À proprement parler, je n'aurai qu'à me survivre et à exécuter moi-même ma dernière volonté. Mais comme cela ne se peut pas, je me vois dans la nécessité de laisser à la piété d'un autre le soin d'exécuter sur la terre ce que la mort m'empêchera de faire moi-même. Et cet autre, ce sera toi. Je te connais bien, quoique je sois resté longtemps un étranger pour toi. J'ai beaucoup aimé ton père, mon brave frère, mais nos voies ont divergé. tandis que la simplicité et la modestie de son caractère le retenaient à son pupitre, et ne disaient rien, ambitionné au-delà d'une honnête médiocrité, le goût de l'art et de la vie brillante me poussait dans le monde. Plus tard, l'amour et le bonheur m'échurent, et ce bonheur fut si grand que j'en oubliais le monde entier. Et le jour où le bonheur abandonna mon foyer et me laissa dans la solitude, mon cœur se détourna des hommes et ne voulut plus vivre qu'avec ses chagrins et sa rancune. Et aujourd'hui que je vois la mort approcher, je m'aperçois que toutes les années passées dans la solitude ont été perdues pour moi. Je n'ai personne à qui je puisse donner mission d'accomplir après moi ce que je ne puis plus faire. Je n'ai personne excepté toi. Je me suis renseigné sur toi. Tu m'as été dépeint comme un homme d'honneur, modeste, rangé, aimant la solitude, passant la vie dans l'étude, n'étant sujet à aucune passion, franc, loyal, dénué d'ambition. Tu étais seul comme moi, libre comme moi. Alors je t'ai appelé, tu es venu. Et j'ai vu refleurir en toi la jeunesse de mon honnête figure, frère. J'ai reconnu dans tes yeux que tu avais hérité de sa loyauté, de son honnêteté, de son équité. Je t'aime, j'ai confiance en toi, et je mets entre tes mains une charge sacrée. Je vais te raconter d'abord en quelques mots tout ce qui est utile que tu saches. Le temps m'est mesuré, le prochain accès de mes souffrances mettra fin à ma vie. Mes yeux s'assombrissent, mon cœur bat plus péniblement, plus lentement. Je n'étais plus jeune lorsqu'en Italie, je fis la connaissance de la signora Elena. J'étais alors maître de chapelle à Naples, à l'opéra de Leoni. Emma Chiari, de son véritable nom, descendait d'une famille noble et était devenue cantatrice par amour de l'art. Oh, comment te la décrirais-je? C'était une femme de génie, et moi, j'aimais son âme. M'a-t-elle jamais aimée? Peut-être ne ressentait-elle pour moi que la tendresse d'une élève ardente, enthousiasme, je ne sais. Et nous nous sommes mariés. J'étais heureux, immensément heureux. Ma femme bien-aimée quitta le théâtre et nous retournâmes dans ma patrie. Te dirais-je la première année sans nuages. Nous vécûmes dans l'art, dans les harmonies de tous les temps. Et l'art fit pour nous de l'amour un paradis. Regarde le portrait accroché au-dessus de mon lit. C'est le portrait de sa mère, la comtesse Nina Chiari. C'est en même temps le portrait frappant d'Elena. Notre enfant s'appelait Angelina. Angelina. Elle avait les yeux de sa mère, le sourire de sa mère. Elle était l'âme de sa mère et l'espoir de ma vie. Et quand Angelina eut 7 ans, la mère disparut avec elle. Dans les dernières années, Elena était triste et taciturne. Mais elle souriait quand je lui en demandais la raison, et elle m'embrassait quand je me montrais inquiet. Et un jour, elle disparut avec notre enfant. Alors je compris que c'était la nostalgie qui l'avait rappelée au triomphe de sa vie première, et que son amour n'avait été qu'un moment d'extase causé par la passion de l'art. Peut-être n'avait-elle pas envie de retourner au triomphe de sa jeunesse, mais elle aimait le bruit, le changement, cette vie d'artiste qui nous déprave le cœur et ne nous permet plus de jouir d'un bonheur calme. Je restais seul. Je ne songeais ni à la poursuivre, ni à la retrouver. Est-ce qu'une existence pleine de contraintes, pleine de rancunes, aurait pu me rendre heureux? Et Angelina? Elle ne me l'aurait pas abandonné, car c'était son âme. Oh, Angelina, tu as été mon âme aussi, et avec toi, la joie a quitté mon cœur pour toujours. Je vieillis de bien des années après la fuite d'Elena. Aujourd'hui, après 15 ans, j'ai un pied dans la tombe. Ce n'est pas la vieillesse qui a ridé mon visage, c'est le chagrin et la rancœur, la solitude et l'amertume qui m'ont rendu ce que je suis. Il y a 6 ans, j'entendis parler d'Helena pour la première fois. Sous le nom de Barini, elle chantait à Florence. On la critiquait avec dédain, comme une grandeur déchue. Une série de coïncidences me fit présumer que cette cantatrice était Helena elle-même. Je m'informai auprès d'un ami de Florence de la situation de l'artiste vieillissante, et on m'apprit qu'elle était toujours brillante. Elle avait une fille, une très belle fille, qui à Paris avait débuté déjà dans le rôle d'Analgisa à côté de sa mère et qui avait beaucoup plu. Helena elle-même avait élevé et dirigeait toute sa carrière d'artiste. Je suis un pauvre mourant. Si l'avenir de ma fille et de sa mère était assuré, je te léguerai tout, mon Erwin. Mais je connais les vicissitudes qui attendent une cantatrice vieillissante. Et si un jour mon Angelina était dans la misère, si un jour elle se trouvait seule et abandonnée, si le hasard lui enlevait la voix ou le courage. Je connais tant de cas où une étoile s'est éteinte dans le malheur et dans la pauvreté. Un refroidissement, une mauvaise liaison, un rien peut détruire l'existence d'une cantatrice qui est sans protection dans le monde. Tu comprends, Erwin, qu'Angelina doit retrouver son foyer, son chez-elle. Si elle revenait un jour avec sa mère, découragée et pauvre. Mais si sa mère apprenait ma mort, elle ne viendrait pas. Que chercherait-elle ici? Si elle venait frapper à la porte et si les voisins lui disaient que le vieillard morose est mort, elle s'en retournerait peut-être, pensant n'avoir rien à espérer. Donc, pour qu'elle puisse se présenter ici, il faut qu'on ignore ma mort. Si tu demandes pourquoi je ne leur laisse pas tout ce que je possède, je te répondrai que si la mère d'Angelina est heureuse, elle ne doit jamais savoir que le vieux fou trompé, non aimé, a songé à son enfant chéri jusqu'au dernier soupir, avec un amour infini et un désir ardent de la revoir. Elle ne doit jamais savoir quel a été son chagrin et combien il a souffert. Mais si elle était malheureuse, si Angelina vient un jour, tu la reconnaîtras à sa figure angélique, dont tu auras appris par cœur chaque trait sur le portrait de sa grand-mère. Tu la reconnaîtras quand elle prononcera mon nom. Alors tu ouvriras cette lettre et tu agiras suivant ma volonté pour l'amour de Dieu et le repos de mon âme, jusque-là sans paix. Reçois Angelina, reçois sa mère. Dis à ma fille que tout lui appartient, ici où le cœur de son père l'a attendue durant de longues années, et qu'elle trouvera dans cette maison un abri sûr pour sa vie bénie. Dis-lui que je l'aime, que toute mon existence lui a été consacrée, et que je pardonne à sa mère du fond de mon cœur. Que le ciel te protège, mon cher Erwin, et qu'il récompense tes actions. Docteur Gottlieb Jammerius, Wormsle. Je levai lentement les yeux sur Angelina. Elle ne cachait plus sa mignonne figure. Calme et rêveuse, elle était toujours assise dans le fauteuil, ses petites mains jointes sur ses genoux. Je me levai. En me voyant m'approcher d'elle, elle dressa vivement la tête. Elle paraissait tout à fait rassurée et sa voix était raffermie lorsqu'elle s'empara de ma main. « Monsieur Erwin, dit-elle, vous m'avez vu très puéril il y a quelques minutes. »« Oh, mademoiselle Angelina, non, écoutez-moi, je ne dirai que quelques mots. Je suis la fille de votre oncle. »«
Je le sais. »
« Ma mère l'a abandonnée en m'emmenant quand j'étais encore enfant. » Elle est morte il y a 3 semaines. Étendue sur son lit de mort, elle m'a confessé toute sa vie, et elle a reconnu ses torts. Elle savait que je n'aimais pas le théâtre, auquel elle m'avait destiné, et elle m'a fait la confession de sa faute afin que je puisse retourner auprès de mon père et vivre avec lui. Son souvenir et sa confiance en lui ont adouci sa mort douloureuse. Me trouvant alors seul au monde, je suis venu ici, près de l'unique foyer qui s'offrait à moi et où j'espérais retrouver mon père. Je suis arrivé écœurée, découragée, anxieuse. C'est pourquoi j'ai pleuré, mais maintenant je suis tranquille. Où est mon père? Reviendra-t-il? Dois-je le chercher? Et où le trouverai-je? S'est-il enfui pour ne pas nous revoir? Me haïrait-il à cause de ma mère? S'il en est ainsi, je retournerai d'où je viens et je resterai cantatrice. Si je n'ai plus mon père, je possède une grande volonté et de l'énergie. En arrivant ici, j'étais folle, mais j'ai retrouvé mon calme. Je désire surtout que vous ne preniez pas pour une enfant. Parlez maintenant. Et je voyais de nouveau cette figure mignonne, orgueilleuse comme une méridionale, me regardant gravement d'un air très grand air. Mais où est mon père? Demanda-t-elle encore. Je tenais toujours les papiers dans ma main. Ceci n'est pas une lettre, lui dis-je. C'est un testament. Elle se dressa en sursaut. Puis elle se rassit, sa petite tête retomba sur sa poitrine, ses mains se levèrent, et je crus qu'elle allait pleurer de nouveau. Mais elle était seulement saisie, et elle ne pleura pas. Et ce testament, continuai-je, ne parle que de vous. Ces papiers contiennent les titres et les droits de toute la fortune de votre père, et cette fortune est à vous. Cette vieille maison, ce foyer paisible, vous appartiennent. Vous êtes riche, vous avez un chez-vous. C'est à moi qu'il a confié tout cela parce que j'étais son unique parent, parce qu'il m'a jugé digne de sa confiance et aussi parce que je suis votre cousin, mademoiselle Angelina. Cette confiance, c'est surtout dans le souvenir de mon pauvre père qu'il me l'a accordée, car il aimait autant qu'il l'estimait pour la droiture de son caractère et sa grande loyauté. Confiez-vous à moi, comme l'a fait votre père. Vous êtes troublée, inquiète, réfléchissez. Je vais vous laisser seule. Vous avez du feu, des rafraîchissements et un très bon lit. Je vous quitte. Lisez cette lettre et reposez-vous ensuite. Demain, quand vous serez réveillée, vous sonnerez. Voici le cordon de la sonnette. Je déposai les papiers sur ses genoux et le retirai en hâte. Elle avait besoin de se recueillir, car elle paraissait consternée par tous ces événements inattendus qui, depuis des semaines, assombrissaient sa vie et secouaient si rudement son petit cœur courageux. Je montai à la chambre que j'avais habitée le premier soir après mon arrivée, et tout habillé, je me jetai sur le lit. Mais cette nuit, je ne dormis guère. Chapitre 9. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure. J'éveillai la vieille Lise et je racontai à la bonne femme étonnée que la nouvelle maîtresse de la maison était arrivée, la fille de M. Irnerius. Sans lui laisser le temps de dire un mot, je l'envoyai en haut pour voir si la demoiselle était déjà réveillée et si elle avait besoin de quelque chose. La pauvre Lise, toute confuse, resta 2 heures là-haut avec la demoiselle. Pendant ce temps, j'étais remonté dans ma chambre et j'arpentais impatiemment la petite pièce tout en prêtant l'oreille à chaque bruit qui venait de l'escalier. Je réfléchissais surtout à ce qui pouvait encore manquer pour rendre l'habitation confortable et agréable à la jeune fille. Je songeais aussi à mon retour à Heidelberg. À Heidelberg. J'allais revoir ma vieille chambre. La vie avait été belle ici. Pourtant, elle n'avait pas été exempte de tourments. Tout était si mystérieux. J'avais failli tomber malade. Mais dehors, il faisait une de ces superbes matinées d'hiver, tout ensoleillées. Alors, la vieille maison me parut attrayante et gaie. Puis, enfin, la vieille Lise entra chez moi et me pria de descendre chez la demoiselle. Elle parlait encore que j'étais déjà dans l'escalier. Je m'arrêtai haletant devant la porte d'Angelina. J'hésitais à entrer. Je m'en étais pas aperçu, mais il paraît que j'avais frappé, car j'entendis de l'intérieur que l'on disait « Entrez !» Angelina, vêtue de sa robe grise, était assise près de la fenêtre et déjà coiffée. Sa figure, mignonne et fraîche, était toute métamorphosée par les rayons du soleil. Je la trouvais beaucoup plus jolie encore que la veille. Elle avait l'air si calme, si résolue, que je jugeais tout de suite superflu mon rôle de protecteur. Bonjour, mon cousin Erwin, dit-elle d'un ton aimable. Donne-moi la main. C'était la première fois qu'elle me tutoyait et m'appelait son cousin. La veille, nous étions encore des étrangers l'un pour l'autre. Je lui tendis la main et lui dis d'une voix tremblante. Au premier instant, je me sentis si confus, si timide, que c'était elle qui aurait pu être ma protectrice. Bonjour, ma cousine. As-tu tout ce dont tu avais besoin pour ta toilette? Demande à la vieille Lise d'aller chercher tout ce qu'il te faut pour te rendre la maison agréable. Je n'entends rien, je suis un vieux célibataire inutile et j'ai vécu toujours seul. Elle m'indiqua du doigt une chaise près de la fenêtre vis-à-vis d'elle et dit en souriant: Je te remercie, mon cousin, je n'ai besoin de rien. Envoie chercher seulement mes bagages au bureau de la diligence. Ensuite, la vieille Lise me trouvera une jeune fille pour me tenir compagnie. Je n'ai jamais été seule. Maman m'a bien gâtée. Il faut se faire à tout. Oui, et me permettras-tu, ma cousine, de rester encore quelques jours chez toi? Lui demandai-je lorsqu'elle se tut et se mit à réfléchir un peu. Elle rougit et me regarda d'un air étonné. Rester chez moi, mais où veux-tu donc aller? Bah, eh bien, retourner chez moi. Ah, tu as donc un autre chez toi? Oui, non. Bon, je veux dire que je vais retourner à Heidelberg, où j'ai demeuré autrefois seul. Oh, fit-elle vivement, et elle se tut un instant. Tu ne vas pas t'en aller comme cela, mon cousin, reprit-elle. Quelle mouche t'a piqué? Il me faut quelqu'un qui me dise ce que je possède, comment je dois vivre, ce que j'ai à faire de tout cela. Je ne connais personne ici. Je ne puis me passer de toute société. Promets-moi, mon cousin, de rester encore ici. Réfléchis que j'ai plus personne que toi. Je baissai la tête, mais sans me donner le temps de répondre, elle continua. Mais comme nous ne pourrions décemment vivre seuls dans cette maison, quoique tu sois mon parent, je vais écrire aujourd'hui à Madame Latour, une vieille dame de Genève, qui m'a élevé et qui a dû nous quitter lorsque nous étions dans la misère. Elle vit actuellement chez son neveu, marié à Vevey. Elle m'aime beaucoup et elle viendra volontiers. Alors personne n'aura rien à dire. J'espère que tu vas me seconder dans toutes mes intentions et que tu ne m'abandonneras pas ainsi lorsque j'ai besoin de tes conseils. Vous avez donc été dans la misère, ma cousine? Oui, maman m'avait perdu sa belle voix et je restais malade pendant 2 ans. Et quand je fus rétabli, je trouvai un engagement et tout alla mieux. C'est à Naples que j'ai chanté la dernière fois. Mais je haïssais cette vie. J'aimais mieux chanter chez moi, à la maison. Malheureusement, maman aimait à se tenir dans les coulisses et à compter les adorateurs qui m'envoyaient des bouquets. Elle aimait aussi à lire les journaux qui parlaient de moi, et tout ce bruit la rendait heureuse. Plus tard, elle comprit que je n'étais pas faite pour cette vie et qu'avec mon caractère altier, je me ferais toujours des ennemis dans le public. Alors elle songea aux incertitudes terribles de l'avenir et reconnaissant enfin qu'elle ne devait pas me laisser dans une carrière que je n'aimais pas, elle me conseilla de retourner auprès du plus généreux des hommes et auprès du père le plus tendre. Elle se tut encore pendant quelques instants. Puis elle me regarda et me dit: Maintenant, cousin Erwin, donne-moi tes conseils. Je veux vivre comme tu as vécu. Et elle me dit cela d'un air si enfantin que je me laissais aller à reprendre mon rôle de protecteur auprès de cette charmante fille. Nous causâmes longtemps et je lui parlais en homme sérieux. Chapitre 10. 3 mois s'étaient écoulés depuis que nous vivions ensemble dans la vieille maison. Madame Latour était un vrai trésor. En peu de temps, elle eut complètement transformé notre habitation. Avec de petits riens dont elle avait fait l'acquisition, elle en avait rendu toutes les parties plus élégantes, plus confortables et plus gaies. Chaque jour, elle sortait avec la vieille Lise et rapportait des quantités d'objets dont elle trouvait le placement et qui semblaient nous avoir manqué jusqu'à là. Souvent, la vieille domestique s'arrêtait étonnée devant un nécessaire, un tabouret, un porte-bouquet, un écran, un plateau, un sucrier, et disait « Tiens, mais nous n'avions jamais pensé à cela, monsieur Erwin. » Et Angelina était partout, avec un petit plumeau multicolore, elle époussetait doucement toutes ces choses délicates, les unes en verre ou en porcelaine, les autres en bois sculpté. Elle examinait ensuite tous les pots de fleurs placés près des fenêtres et sur des étagères, car Madame Latour était grande amie des fleurs, et les taillait et les émondait avec ses petits ciseaux de jardinier. Elle raccommodait de sa propre main mes cols et mes manchettes et rangeait mon armoire à linge. Enfin, je la trouvai un jour dans la cuisine, remuant la pâte et agitant la poêle comme une vieille cuisinière de profession. Et moi, pendant ce temps-là, j'arrangeais, je réglais ses affaires, notamment avec le banquier de feu, le docteur Imerius. Je pus alors me faire une idée exacte de la fortune d'Angelina. Je me consacrais à régler sa situation avec tout le zèle dont j'étais capable envers la charmante jeune fille. J'avais tant à faire et tant à écrire que le procès de Marguerite Hemling n'avançait que fort lentement. Mais j'eus enfin la joie et l'orgueil de voir les affaires d'Angelina si bien arrangées que je devenais inutile. Eh oui, inutile. Un jour, j'étais assis devant la table à écrire dans la chambre d'Angelina, étudiant un document hypothécaire. Angelina était assise près de la fenêtre, ourlant un foulard de soie. Madame Latour brodait un coussin, destiné, je supposais, à faire la sieste. Je pensais même que c'était pour moi, car elle savait que le jour de mon anniversaire était le surlendemain. En levant les yeux, je vis que ceux d'Angelina étaient fixés sur le portrait de sa grand-mère. « Mais avant de te connaître, cousine Angelina, je savais combien tes yeux étaient beaux, » dis-je involontairement. Oh, j'étais effrayé de ce que je venais de dire. « Et comment le savais-tu ? » demanda-t-elle aussitôt. « Eh bien, sans doute par ce portrait-là, » dit Madame Latour avec son accent suisse en regardant Angelina. Madame Latour avait une si bonne vieille figure que chaque ride semblait l'expression d'une amabilité. « Vraiment ?» demanda Angelina. « Oui, bien souvent je me suis plongé dans des rêveries devant ce portrait. Pourquoi le visage seul est-il peint sur le fond brun ?»« Bon, je ne sais pas, » dit Angelina. « Je pense que personne ne le sait. »« Moi, dis-je, je crois l'avoir compris. »« Voyons le poète, » fit Madame Latour avec un petit sourire. « Dans les longues nuits d'hiver, j'ai songé que le peintre a aimé son modèle. L'amour lui a brisé le cœur et il est mort après avoir donné la suprême lumière à ses yeux divins. » Je disais cela d'un ton pénétré. Le roman que j'avais imaginé à ce sujet hantait mon souvenir. Angelina baissa tranquillement ses yeux sur son travail. « Ah, mais pourquoi l'amour devait-il lui briser le cœur ? » fit-elle du ton léger d'une vraie cantatrice italienne. « Est-ce qu'il ne pouvait pas dire à ma grand-mère « Je vous aime » et peut-être elle aussi l'aurait-elle aimé ?»« Oh, ta grand-mère, ma cousine !» C'était une comtesse. Elle était riche, très riche. Elle avait sans doute une maison, une grande fortune. Le peintre était pauvre, alors il ne pouvait pas dire à la grande dame, je t'aime. Mais pourquoi pas, si elle l'aimait? Mais même si elle l'aimait, il devait se taire. Il le devait d'autant plus, lui dis-je gravement. Elle serait devenue sa femme. Elle lui aurait apporté la fortune et elle aurait été devant elle comme un mendiant. Quand un homme d'honneur aime une fille riche, il doit se taire et tâcher de l'oublier, s'il ne veut pas être compté à ses propres yeux parmi les aventuriers et les parasites. Angelina jeta un regard sur moi et continua son travail sans rien dire. Madame Latour, également silencieuse, promenait ses yeux de la jeune fille à la fenêtre. Je me levai, mon travail était achevé. Toutes les affaires d'Angelina étaient en règle. Je n'avais plus rien à faire dans cette maison. Je montai à ma chambre et je me mis à ranger mes livres, tout rêveur. Chapitre 11. Le printemps était revenu. Jamais il m'avait paru aussi vert, aussi divinement lumineux. Le monde me semblait tout neuf. Pendant de longues années, j'avais passé devant les merveilles de la terre, timide et peureux, et mon esprit puéril avait fouillé dans la moisissure des pyramides et dans la mousse des tombes de géants disparus. Et les fleurs, et les voix des oiseaux, et les perspectives roses des montagnes avaient été pour moi des énigmes muettes. Maintenant, je comprenais ces énigmes, et je sentais qu'en moi un enfant était devenu homme. Je m'étonnais de la force vitale exubérante qui me gonflait la poitrine. Oh, comme la maison était devenue charmante et confortable! Était-ce sa main assidue, méthodique, ou était-ce la lumière de ses yeux divins qui transfigurait ainsi tout? Combien mon esprit nerveux, inconscient, rêveur, était devenu calme et serein! J'arrangeais tout, je dirigeais tout. On avait toujours besoin de moi. Chaque moment de ma vie avait un but. Il me fallait veiller et penser pour la pauvre jeune fille, inexpérimentée et sans appui. Je pouvais la renseigner sur les choses les plus importantes de sa nouvelle vie. Je ne me croyais pas tant de connaissances pratiques. Avec cela, je n'avais été aussi gai. C'est un malheur de ne pas être gai au printemps où tout vit dans la nature. Je riais à chaque instant de très bon cœur, surtout des saillies de Madame Latour avec sa singulière prononciation de l'allemand. Et ce n'était pas tout. Ce qui était prodigieux, c'était que mon ouvrage sur les superstitions du Moyen Âge avançait rapidement. Je ne travaillais que 2 heures par jour avant de me coucher, mais déjà mes idées s'étaient tant éclaircies et épuisées. Et j'étais si calme que j'écrivais sans interruption. Je démêlais facilement les causes des événements, sans que, comme autrefois, 10 000 balais de sorcières vinssent s'ajouter autour de moi, ce qui me rendait incapable de production. Je ne songeais plus, j'étudiais, je cherchais et je trouvais. Quand je me couchais, Angelina jouait en bas, sur le piano qu'elle avait acheté, le chant des pasteurs. C'était ma chanson favorite. Je m'endormais paisiblement après le travail de la journée. Cependant, ma mission ici était accomplie. Il fallait partir. Dans 8 jours, je me mettais en route. Mais pourquoi ne pas passer ici la Pentecôte? Alors, dans 15 jours. Chapitre 12. Madame Latour était à moitié couchée sur le divan, rêvant, faisant sa sieste. Sa robe de soie brune, nuance feuille morte, bouffait autour d'elle. Le soleil de l'après-midi transfigurait la verdure dans tous les pots de fleurs près de la fenêtre. Il éparpillait de folâtres ombres de feuilles sur les murs, sur le parquet, sur le vieux portrait, et caressait les cheveux d'Angelina. Elle jouait les adieux de Beethoven. J'avais écouté, appuyé sur sa chaise. Elle leva les yeux et dit « Dois-je jouer aussi l'absence ?» Quand elle parlait, elle avait une voix de contralto si charmante, si sonore, si pleine et si décidée, et un si beau regard, ferme et résolu. À côté de cette aimable jeune fille à l'esprit fort, je me sentais de nouveau très maladroit, très insignifiant. Elle avait quelque chose de doucement, impérieux et imposant. Et moi, j'étais un garçon si timide, si niais. Quand je ne travaillais pas, quand je n'étais pas occupé à quoi que ce soit, quand je ne me rendais pas utile. « Oui, lui dis-je, oui, cousine Angelina, joue l'absence. Cela la retardera toujours un peu. »« Mais des bêtises, répondit-elle vivement. Tu ne t'en iras pas. » me dit-elle en fixant ses yeux sur les miens. Non, non, je m'en irai dans 15 jours, tu le sais. Elle me regarda un instant sans répondre, puis elle reporta ses yeux sur le piano. Tout à coup, elle respira profondément, se leva, s'empara de mon bras et m'attira vers le sofa de Madame Latour. Elle était très grave et ne me regardait plus. Elle saisit le frêle bras de son amie et la secoua pour l'éveiller. Celle-ci clignota en écarquillant les yeux. Elle rit et bredouilla quelque chose. Puis elle se mit à le contempler attentivement et soudain il lui vint comme une révélation. Elle se dressa en disant « Eh bien !» Elle était maintenant tout à fait éveillée, la chère petite vieille au cœur chaud. « Restez éveillée, maman, » dit Angelina en se penchant sur elle. Elle l'embrassa et lui passa la main sur les boucles grises coquettement arrangées. Il me sembla un instant que cette petite main tremblait. Non, je me trompais, elle était calme, très calme. Angelina se tourna vers moi. « Écoute, cousin Erwin. » J'ai observé le monde depuis mon enfance. J'ai vu ce qu'est la vie et ce qu'est l'art. J'ai compris alors le ridicule des passions, le faux clinquant de la vie d'artiste, l'inanité de l'enthousiasme momentané d'une foule bête. Souvent, j'ai souhaité de vivre dans une chambre tranquille de jeune fille. J'ai langui après la vie simple du foyer propre, calme, aimable, toujours le même. Je crois que j'ai hérité plutôt des qualités de mon père que de celles de ma mère. Peut-être que si j'étais restée toujours dans cette maison, comme fille du vieux Immerius, j'aurais rêvé les triomphes, la vie d'artiste, le vacarme et le bruit du dehors. Et au contraire, j'ai connu tout enfant le côté le plus vide de cette vie et la meilleure partie de mon âme, celle de mon père, a déployé ses ailes pour atteindre le séjour de la paix. Cette paix, j'espère la trouver ici à mon tour. Il me semble que je serai une bonne ménagère. J'ai appris beaucoup en peu de temps. Je comprends la cuisine, j'aime le ménage et le travail. Il me reste encore assez de temps pour étudier avec mes mères de nouvelles pastorales qui feraient plaisir à un ami. L'art est très beau lorsqu'on se contente d'en agrémenter une vie normale. Comme métier, comme marchandise, il ne peut pas satisfaire le cœur. Erwin, autrefois j'ai été superbe, pleine de dédain et de présomption. Mais depuis que je suis seule, j'ai reconnu combien est faible et désemparé le cœur de la femme la plus fière. S'il est livré à elle-même, s'il ne peut passer de l'assurance, du courage et de la confiance dans le cœur d'un homme dévoué, rappelle-toi les larmes que j'ai versées ici même le premier soir. Depuis, je suis devenue plus raisonnable, meilleure, plus femme. Je n'ai jamais aimé. Le croiras-tu, Erwin? Bon, ce n'est pas parce que j'étais plus prude que d'autres novices de l'art, mais parce que je n'ai rencontré aucun homme qui m'ait paru digne d'estime et de respect. Tous n'étaient capables que de flatteries, de grimaces amoureuses, d'enthousiasmes factices. et avec cela si vide. Il est bien rare qu'un artiste fasse la connaissance de vrais hommes. Ceux-ci se tiennent à distance. Voilà pourquoi mon cœur n'a pas encore parlé. Toi, Elvire, tu es un homme dans sa plus noble expression du mot. Tu es raisonnable, sage, diligent, calme, fier comme un homme doit l'être. Avec cela, tu as un cœur brave, doux, modeste, un cœur d'enfant. Et cependant, tu veux me quitter, mais pourquoi? Parce que je suis riche et que tu ne veux rien me devoir, pas même un intérieur agréable. Mais si tu retournes dans une chambre sans confort, où résonne le vide et où règne la tristesse avec la solitude, tu deviendras de nouveau nerveux, malade. Père Irmerius m'a donné tout ce qu'il possédait. J'en puis disposer de la manière qui me conviendra. Eh bien, je te le donne. Si tu me refuses, je pars et m'en vais mourir ailleurs. Tu resteras seul ici. Tais-toi. C'est entendu maintenant. C'est moi qui suis pauvre. Est-ce que je puis rester encore un peu? Tu es bien obligé de dire oui à ton tour. Je te l'ai bien permis, moi, quand tu me l'as demandé. Ou bien veux-tu que je devienne ta femme? Tais-toi encore, cher grand enfant. Tu n'aurais pas voulu être mon mari, parce que j'étais riche. Tu ne peux plus refuser maintenant que je suis pauvre et que c'est moi qui reçois. Tu vas me faire riche, parce que je ne peux plus exister sans toi. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Les beaux yeux d'Angelina, jusqu'alors si brillants, se remplirent de larmes. Son joli visage, habituellement si résolu, se pencha tout en rougissant sur ma poitrine, et ses petites mains, ordinairement si calmes, se placèrent tremblantes sur ses yeux baissés. Il me fut impossible de répondre. Je serrai ma chère petite fiancée sur mon cœur débordant de joie. Un peu remis de mon trouble, je m'agenouillai devant la charmante Angelina et, riant et pleurant à la fois, je lui dis d'une voix brisée « Mais je t'aimais déjà quand je ne te connaissais pas et ne te désirais qu'en rêve. Mais depuis que je t'ai vu, je t'ai aimé à tous les instants de ma vie. Que tu es venu transformer et embellir. Et si je t'avais quitté, je t'aurais toujours aimé, toujours, toujours, toujours. Je le sais, dit-elle en souriant. Emilio Vagano.